France Culture, Le Grand Tour, Le Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir, nos dernières étapes à Venise. Ce soir, je vous propose de visiter une grande et belle rétrospective de l'artiste chinois Xu Teixun, maître du paysage abstrait et star du marché de l'art. Et c'est le commissaire de l'exposition Mathieu Poirier qui nous fait la visite, direction la Fondation Chini.
La base de cette exposition, c'est une envie de ma part de découvrir le travail que je connaissais, comme beaucoup de monde et peut-être certains d'entre vous, très mal. L'idée, c'était de, comme je fais souvent, quand un boulot m'intrigue, je vais voir des œuvres. Donc voilà, je suis curieux, je contacte la Fondation, on s'entend bien, je vois les tableaux, je me dis mais c'est incroyable. Voilà, j'ai eu le même choc en voyant les œuvres à la Fondation que j'avais eu en voyant les œuvres dans une autre fondation, celle de Hans Hartung, et découvrir aussi le travail d'Anna Eva Berman. À l'époque, c'était une vraie surprise. C'était en 2010, quelque chose comme ça. Et là, je retrouve finalement la même émotion. Donc ça va me permettre de rebondir pour parler de la biographie de Xu Teixun. C'est un artiste qui est né en 1920. Il va à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, mais il a une formation qui est déjà très pointue pour l'époque parce que ses professeurs ont été formés en France, aux Beaux-Arts de Paris ou à Dijon. C'est complètement étonnant. Et donc qui sont déjà très ouverts à la modernité, qui vont l'initier finalement à Picasso, à Cézanne, etc. Il va déjà être très curieux. C'est pas quelqu'un qui va évoluer dans un milieu finalement sino-chinois. Il va déjà, par sa formation, être ouvert sur l'étranger. Et à la fin de cette formation, il devient professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Ensuite, il arrive en France en 55, après un passage par Taïwan où il enseigne de 49 à 55, il est assistant professeur et il arrive à Paris avec un peu de sous qu'il a gagné en vendant quelques œuvres dans une exposition, et objectif, tenir un an à Paris et ensuite aller à New York. Paris lui plaît. Il a trouvé une chambre d'hôtel rue Laumont à Paris du plus grand confort, une chambre de presque 6 mètres carrés dans laquelle il va vivre pendant 2 ans et demi. Et c'est dans cet espace-là qu'il va finalement expérimenter, apprendre le français tout doucement, et puis surtout, voir de l'art, lire des livres, visiter à peu près tous les musées possibles et imaginables, se confronter à cet art occidental qu'il ne connaissait que par le biais de reproductions de toute petite taille en noir et blanc dans des ouvrages qui étaient justement commandés par ses professeurs lorsqu'il était en Chine. Donc en 55, c'est le tout début, sauf que en quelques mois à peine, il bascule dans l'abstraction. Il voit une rétrospective Cézanne au Grand Palais, l'année d'après, rétrospective de Stahl, qui le marque, non pas tant pour la peinture, mais l'idée qu'on peut être un peintre abstrait. L'exposition, c'est une forme d'écriture en soi. On est arrivé dans un espace, la Fondation me dit on a un espace, attention, c'est challenging. C'est une ancienne piscine qui sert depuis une dizaine d'années à des expositions. Sur le coup, je fais oups, je m'attendais plus aux espaces un peu plus classiques, typiques de biennale. Mais après, je me suis dit, pour peu qu'on pense à une scénographie qui fait le lien entre la complexité de ce site, qui est une forme de canyon au fond, et la planéité picturale de ces tableaux, enfin en tout cas l'objet, on est vraiment, c'est des tableaux, c'est de l'huile sur toile. Si on arrive à trouver le lien, ça peut être intéressant. Et donc avec deux scénographes, qui ne sont nul autre que le fils et la belle-fille de l'artiste, on a conçu cet espace en résonance avec les tableaux, avec quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de chaos organisé. Et ici, peut-être un tableau qui est tout à fait intéressant parce qu'il parle de quelque chose, des forces de la nature, presque des forces telluriques. On a quelque chose de l'ordre de l'éruption volcanique dans ces tableaux. On a même parlé en 1958, c'est Michel Ragon qui invente l'expression, de paysagisme abstrait. Pour beaucoup, notamment dans les années 60, c'était l'horreur absolue. Alors là, on était vraiment dans l'école de Paris, l'abstraction lyrique, l'expressionnisme abstrait. La place était à d'autres de courants artistiques, mais aujourd'hui, je pense que envisager le paysage comme un grand impensé de l'histoire de l'abstraction me semble absolument essentiel. C'est finalement l'image en filigrane. C'est la source d'où découle non pas une image figée du paysage, mais finalement la mise en avant de certaines de ces données dynamiques. une vision du paysage qui, pour le coup, choque pas un artiste de tradition ou de formation chinoise pour qui le paysage en lui-même n'a rien de réaliste. Le paysage chez Chu Tae-chun et chez d'autres artistes aussi, hein, contemporains, le paysage est privé finalement de ses acteurs qui normalement évoluent au centre comme le décor par rapport aux acteurs, le décor d'une scène. Le paysage, le décor a pris son autonomie. C'est-à-dire que le paysage est devenu un paysage d'événements. Il est lui-même au cœur de l'action, c'est lui-même l'acteur. Donc ce qui se passe dans le paysage, ce n'est pas juste un fond, une neutre qui accueille quelque chose, c'est l'événement lui-même. Donc il y a une forme de révolution scopique. Hein. Et surtout, ce qui me semble fondamental aussi chez ces artistes, c'est que la disparition de la figure laisse place à une autre figure, mobile, vivante, variable, inconstante au possible, celle du spectateur. Nous sommes partie prenante de la composition. Et évidemment, se placer à proximité d'elle nous fait plonger dans un vortex, dans un maelstrom finalement, et nous fait nous projeter mentalement dans un espace sans prise réelle, sans solidité. Et c'est tout à fait vertigineux, et ça fait partie de l'expérience esthétique que procurent ces tableaux. Chu Tae-chun est aujourd'hui une des stars du marché. Oui. Voilà, c'est un des artistes depuis une dizaine d'années, un des 50 artistes les plus chers du monde. Mais quelque part, c'est dommage de s'arrêter à ça. L'important, c'est de comprendre aussi pourquoi ce travail plaît, tous azimuts, et pas juste en Asie, hein, même si c'est évidemment un foyer important pour les collectionneurs. Comprendre finalement sa singularité et aussi cette capacité à se relier à plein de choses. C'est pour ça que le livre, dont j'aimerais quelque part projeter en diapo toutes les pages, permet de comprendre tous ces, à la fois la singularité, mais tous les points de touche de ce travail avec, par exemple, Sam Francis, avec Helen Frankenthaler, avec Maurice Louis, mais aussi évidemment avec Goya, avec Rembrandt, comprendre un petit peu comment il a façonné cette étrangeté totale et comment sa réception d'une certaine manière a pris un petit peu plus de temps qu'elle n'aurait dû pour diverses raisons. Tout à l'heure, je croisais un grand galeriste historique qui me disait « Ah, je l'ai rencontré en 67 », mais il voulait pas de contrat avec les galeries. Il voulait pas jouer ce jeu-là. Ce qui est fou, c'est qu'il a gagné d'une certaine façon, mais c'est évidemment, et on le sait très bien, une forme d'exception à cette logique qui veut qu'un grand artiste, et sa succession en l'occurrence, soit articulé à des grandes galeries.
Un des plus grands peintres chinois contemporains vivants, Yan Peiming, est là, hein, au vernissage, juste en face, je le vois devant moi. Pour rendre hommage, il est là pour rendre hommage à son ami, Chu Tae-chun. Alors je vous propose, on va lui demander son avis sur cette grande rétrospective. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ami de l'artiste.
Exactement.
Ouais. Comment vous le connaissez ?
Je suis venu avec son adresse par un autre copain de lui en Chine. Voilà, je lui portais une lettre. Voilà, donc je suis allé voir. Après, chaque année, je suis allé voir une fois par an quand j'étais, comment dire, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts.
Ah oui, donc vous le connaissez depuis très longtemps ?
Oui, depuis que je suis arrivé en France. Voilà, c'est lui qui m'a dit que, voilà, donc, resté à Dijon, il a une école de Beaux-Arts. Son professeur, il a fait l'école de Beaux-Arts à Dijon.
À Dijon.
Voilà, donc, c'est. Voilà, donc, en plus, chaque fois que je fais, quand j'étais étudiant, je fais l'exposition à Paris, il est toujours venu à mon vernissage. Mm. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'élégance.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, de l'exposition ?
Je trouve que c'est une exposition dans un lieu très particulier. Voilà, une mise en scène, c'est pas habitude pour nous. Voilà, donc entre les piscines, descendre, tout ça, on fait un bon travail. Mmh. Voilà, donc oui, on n'a pas habitué.
Allez voir comme ça ces œuvres-là.
Voilà, ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y a une des œuvres que vous préférez ou une des périodes que vous préférez, plutôt les grands formats, les formats récents ?
Non, je pense que toutes les périodes, il y a une qualité que assumer. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment un travail sur l'intérieur de lui-même. Mmh. Voilà. Donc, toutes les périodes sont bonnes. Voilà, qu'il n'y a pas de, on peut dire que le Picasso, voilà, que quelle période est bonne. Est-ce que c'est à la fin est bon ou c'est au début est bon. Voilà, normalement, c'est une construction d'une vie.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je vous propose de découvrir la nouvelle école du rire qui ouvrira en septembre à Avignon et elle est pilotée notamment par l'humoriste Jérémy Ferrari.
Merci Marie et à demain.